arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte,
« Eloi, Eloi, lama sabachthani !»
Ce qui veut dire,
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie !» L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là !» Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion, qui était là, en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écria, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu !» Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Francine Robert, dans ce petit récit qu'on vient d'entendre, il y a le cri,
oui,
Eloi, Eloi, là, qui a été donné en langue araméenne. Même les traducteurs ont conservé cette phrase-là.
Ce qui lui donne un fort indice d'authenticité.
Mm-hmm.
Vous savez, c'est plus facile lorsqu'on raconte la mort d'un personnage que par ailleurs on présente comme un fils de Dieu ressuscité, ou à la limite même un personnage qu'on présenterait comme un grand philosophe ou comme un maître à suivre. C'est plus facile et plus normal, si on doit inventer ces dernières paroles, d'inventer des paroles sereines que d'inventer une parole comme ça. Donc, ça donne un taux d'historicité assez fort. J'avais dit qu'on n'entrerait pas dans les questions d'historicité. C'est tout à fait frappant, ce cri de Jésus, qui ne correspond pas à la mort sereine d'un philosophe comme Socrate, ni à la mort sereine des martyrs juifs comme les frères Maccabée, par exemple. Ce cri qui semble exprimer un état d'abandon total, une angoisse, crier vers Dieu, et avec une sorte de reproche implicite à Dieu de ne pas bouger, de ne rien faire. Hein. Comme lecteur chrétien, si c'était la première fois que nous lisions les évangiles, on a été préparé à ce que Jésus soit tué. Il y a eu les annonces de la passion, l'arrestation, les procès. On n'a pas été préparé à ce que Jésus semble exprimer d'un ressenti de l'absence de Dieu. Vous voyez, Dieu qui ne fait rien. Et bon, on a cherché beaucoup au niveau des commentaires à adoucir ce cri, entre autres en disant que c'est le début du fameux psaume 22.
et qui se termine bien. Psaume 22 se termine dans la
confiance.
Dans la confiance, et voilà. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, etc.
Oui. Ouais. Donc, on dit, ouais, mais Jésus a seulement dit la première phrase d'un psaume qui est en fait une prière de confiance. C'était une manière de suggérer qu'en fait, il pense l'ensemble du psaume. Mais on se dit à ce moment-là, ça aurait pu aussi bien être d'autres psaumes qui demandent à Dieu d'être sauvé. Je crois pas qu'on ait le choix entre Jésus est désespéré puis c'est pas chrétien ou Jésus est dans une totale confiance en Dieu. Pour plusieurs commentateurs qui me rejoignent davantage, ce que Jésus ressent, c'est l'absence de Dieu. C'est le fait que Dieu reste à ne pas réagir. C'est exactement ce que les croyants de Marc ont ressenti, par exemple, dans cette communauté chrétienne qui a été persécutée par Néron quelques années auparavant. Et on croit au Christ ressuscité, mais comment ça se fait qu'il nous laisse mal pris comme ça? Jusqu'où va aller la foi chrétienne lorsqu'elle est acculée à ces situations sans issue dans lesquelles, de toute évidence, Dieu n'intervient pas? Est-ce que ça signifie que Dieu n'est pas là? Est-ce qu'on peut prier en disant encore, mon Dieu, c'est une prière de croyant, la prière de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné, mais pourquoi tu me laisses tomber, pourquoi tu fais rien? Ça veut pas dire qu'il n'est plus croyant, vous voyez. Ça veut simplement dire cette détresse vers Dieu qui semble impuissant et semble maintenir son impuissance au lieu d'intervenir pour le sortir de là. Et je pense que ça, c'est tout à fait possible, en tout cas, sinon chez le Jésus historique dont on ne connaît pas l'intériorité, certainement dans la christologie de Marc. Et on se rappellera que Jésus, à l'agonie, et l'agonie qui est le récit le plus chargé, je dirais, d'angoisse des quatre évangiles, c'est celui de Marc, à l'agonie, Jésus a prié en disant « Abba ».
Qui veut dire « Papa ».
Et ici, on sent qu'il y a une distance beaucoup plus grande. Mon Dieu, mon Dieu.
C'est ça. À l'agonie, il va dire papa.
Sa prière, c'était, écoute, est-ce que c'est possible que ça se passe autrement? Éloigne de moi cette coupe. Mais de toute évidence, Dieu ne fait rien. Alors, il y a là une christologie qui doit aller, je dirais, jusqu'au fond de la condition humaine. C'est-à-dire, jusqu'à l'incertitude sur la présence de Dieu. Dans la perspective toujours de l'évangile de Marc. Si tu es dans la certitude totale tout le temps, tu n'es pas tout à fait dans la condition humaine. Je pense qu'il y a là, donc Jésus qui touche le fond de la condition humaine, dans l'évangile de Marc, la fragilité aussi, et qui fait l'expérience d'être abandonné d'un certain Dieu. Pourrait-on dire, comme par exemple, je disais Paul Lamarche ou Éliane Cuvillier, pourrait-on dire que ce Dieu qui l'a abandonné, dans son ressenti, je dirais, c'est celui à qui Jésus disait « Abba, tout est possible pour toi ». Il y a peut-être là un certain Dieu auquel on doit renoncer. Tout n'est pas possible pour Dieu. Vous voyez, il doit être conséquent, il essaie de se révéler comme un Dieu qui ne joue pas la carte de la toute-puissance. Il va pas se révéler maintenant tout-puissant. Tout n'est pas possible pour ce Dieu-là. C'est ça qu'il essaie de nous dire. Alors, jusqu'à un certain point, je dirais que, oui, dans Marc, Jésus est abandonné par une certaine image de Dieu. Et on est appelé à voir, nous, là-dedans, dans cette mort-là, la présence même de Dieu.
Francine Robert, il y a deux événements qui suivent la mort de Jésus. Premier événement, le rideau du temple fut déchiré en deux. Le deuxième événement, le centurion s'écria, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Je pense que c'est pas rien, là. C'est important, ça.
Oui,
le rideau
oui.
du temple, tout ça, ce que je vois, c'est la fin d'une époque. C'est la fin du temple. D'ailleurs, lequel temple sera détruit une quarantaine d'années, je pense, après la mort de Jésus, en l'an 70, avec le général Titus.
Mais même si le temple n'avait pas été détruit, il s'agit bien ici de la destruction d'un symbole. Et c'est beaucoup plus fort d'une certaine manière, parce que c'est le voile donc qui ferme le Saint des Saints, hein, le voile du sanctuaire. Ici, le mot que nous avons, c'est naos, c'est pas le mot habituel pour temple, mais c'est vraiment le mot pour sanctuaire, le lieu le plus saint qu'on trouve dans tous les temples. C'est-à-dire le lieu où on considère que réside, si on veut, la présence de Dieu. Bien que soyons aussi au clair là-dessus, la foi juive n'est pas chosifiante et il y a pas de croyants qui s'imaginent vraiment que Dieu est enfermé dans le Saint des Saints. Non, le Saint des Saints est vide, mais ça représente symboliquement. Ça a une grande force. La symbolique du sacré, c'est extrêmement fort.
À ce moment-là, le voile qui se déchire, en fait, c'est Dieu qui se révèle entièrement. Alors.
Exactement.
Il perd son vêtement.
L'image est belle. Oui, absolument. Il perd ce qui, d'un point de vue du fonctionnement socio-religieux, le sacré, ça protège la zone de la vie normale, de la zone de la vie sacrée. Donc, ça inscrit une frontière protectrice pour Dieu contre nous, pour éviter les profanations, et pour nous contre Dieu, pour pas qu'on ait Dieu dans la vie de tous les jours. C'est la frontière ultime entre le sacré et le profane.
Cette frontière-là, elle est transgressée, elle est éclatée.
Mm-hmm. Exactement comme la frontière entre le ciel et la terre a été transgressé par Dieu au jour du baptême de Jésus.
Oui, le ciel se déchire.
Oui, c'est d'ailleurs le même verbe, et ce sont les deux seuls emplois de ce verbe dans l'évangile de Marc. Les cieux se déchirent au baptême, et ici, le voile du sanctuaire se déchire. Lorsque nous avons le grand prêtre qui déchire sa tunique, c'est pas le même verbe, c'est un autre verbe complètement. Donc, ici, c'est comme si Dieu se révélait, se donnait à voir. Ce lieu secret n'est désormais plus secret. Il est accessible. Je pense à Paul Lamarche qui dit finalement, ça nous donne de voir l'amour de Dieu dans cette vulnérabilité. À ce moment-là, c'est pas dans le temple qu'on doit regarder. Et d'ailleurs, le centurion, c'est pas le temple qu'il est en train de regarder.
Alors, venons-en maintenant au centurion. C'est quand même impressionnant que la profession de foi, est-ce que je me trompe, que ce serait la première profession de foi dans l'évangile de Marc, mais elle vient d'un soldat romain.
C'est la première personne qui désigne Jésus comme fils de Dieu dans tout l'évangile de Marc. Alors c'est tout à fait étonnant que ça ne soit pas un disciple d'abord. Et que ce soit un Romain ensuite.
Il est permis de croire qu'il y avait quelques soldats qui faisaient partie des premières communautés chrétiennes.
Peut-être, pas des tout premiers, mais certainement de la communauté de Marc. De toute manière, on n'a pas tellement à s'interroger sur la vraisemblance. Ou alors sur est-ce que quand un Romain dit ça, historiquement, ça peut vraiment vouloir dire « fils de Dieu » au sens où les chrétiens l'entendent. C'est inutile de se poser ces questions-là, puisque ce que nous avons, ce n'est pas le reportage, mais la catéchèse, et il est clair que quand Marc écrit ça, il considère que ses lecteurs vont entendre, comme lui, cette expression au sens fort. Voilà, Jésus, c'est le Fils de Dieu.
C'est une profession de foi, finalement.
Tout à fait. Ouais. Comment adhère-t-on au Fils de Dieu, dit Marc, à travers un Fils de Dieu qui se révèle tel, c'est-à-dire fils de Dieu, dans sa capacité à renoncer à la toute-puissance. C'est voyant qu'il était mort ainsi, précise Marc. C'est très fort. Dans Matthieu, c'est déjà atténué. Il y a plein de choses qui se passent. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent, les morts sortent. Bon, tout genre littéraire apocalyptique. Et après, c'est sûr que ceux qui voient tout ça disent vraiment cet homme était fils de Dieu. C'est pas ça chez Marc. Il est tout seul à dire. il s'est rien passé, et ça n'est pas voyant le voile, c'est voyant Jésus mort ainsi. Alors, Marc est en train de nous dire, si tu veux pas dire que Jésus est le Fils de Dieu comme les esprits mauvais, là, c'est ça que tu dois intégrer dans ta manière de le voir. Si tu vois le Fils de Dieu dans cet homme mort au plus profond de la détresse, tu peux dire, oui, il est Fils de Dieu. C'est pas non plus devant le ressuscité. C'est pourquoi on va dire de l'Évangile de Marc qu'il présente vraiment une théologie de la croix. Hein. Ce que Daniel Margarat dit, si vous permettez, je vais le citer. Paul et Marc sont les seuls à défendre une théologie conséquente de la croix. Il y a dans la théologie de Paul et de Marc cette rigueur extrême. Dieu se donne à connaître dans le visage du crucifié, et cette révélation bouleversante invalide toute autre connaissance que l'on pouvait avoir de lui. Il s'ensuit que pour eux, pour Paul et Marc, la spécificité du christianisme ne réside ni dans l'amour de Dieu, ni dans l'amour du prochain, mais dans la parole de la croix. Ce commentaire de Daniel Margarat, donc extrait de son livre « Le Dieu des premiers chrétiens ». Reconnaître Dieu qui se vide de sa puissance, c'est-à-dire qui consent à être faible avec les faibles, fragile avec les fragiles, humilié avec les humiliés.
Vraiment qui se met à notre portée.
Oui, et qui se met plus qu'à notre portée, qui se rend vulnérable à nous. Donc, d'une certaine manière, un Dieu qui ne jouera pas la carte de la force contre nous. Et donc, si on la joue contre lui, ce que le récit de la Passion met en scène, en fait, c'est les humains qui résistent à Dieu par la force, eh bien, il va se laisser faire. Je sais plus qui disait, la force de Dieu, c'est sa capacité à renoncer à la force. Alors, c'est un peu ce que signifie la profession de foi du centurion. Il faudra se rappeler que l'évangile de Marc commençait avec cette phrase, « Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». La première fois que quelqu'un l'a appelé Christ, c'était à la moitié de l'évangile, c'était Pierre. Et Jésus avait commencé à annoncer sa passion. Et la première fois que quelqu'un l'appelle Fils de Dieu, c'est à la croix. C'est très conséquent comme construction, cet évangile. C'est bien pour amener le lecteur chrétien à dire, c'est là qu'on rencontre Dieu. Si j'y insiste, c'est parce que ça va plus loin que ce qu'on dit habituellement, qui est vrai aussi. C'est-à-dire, on a à découvrir un Messie qui choisit pas les moyens de la puissance, c'est pas un Messie triomphant, et Dieu va le confirmer en le ressuscitant. Tout ça est vrai. Mais c'est vrai aussi bien pour Matthieu et pour Luc. Chez Marc, il y a ceci de plus que c'est Dieu lui-même qui est révélé à l'opposé, disons, de nos fantasmes de toute puissance, je pourrais dire, sur Dieu. Il se révèle dans l'abaissement, il se révèle dans la fragilité, le refus de la force. Nous l'avons dans la profession de foi du centurion, qui est introduite d'une manière très originale chez Marc. D'autant plus originale, je le signalais, que il y aura chez Marc seulement ce témoignage du centurion auprès de Pilate. Bon, quand Joseph d'Arimathie viendra demander le corps de Jésus, c'est bien donc le centurion qui confirme à Pilate, oui, il est bien mort. Vous voyez, c'est bien lui qui vient de dire, cet homme était fils de Dieu. Et ça, c'est propre à Marc, ce détail, pour bien montrer qu'il faut aller au bout de la reconnaissance que nous devons faire de Dieu dans le crucifié. C'est sûr que Marc va proclamer la résurrection, hein. Il va pas rester au crucifié, là. Mais lorsque les femmes vont venir au tombeau embaumer un mort, ce jeune homme dont nous parlions tout à l'heure va leur dire « Le étant crucifié a été relevé ». Voyez tout ce que Marc va faire, il ne nous raconte pas les apparitions. Les versets 9 à 20 de cet évangile sont un appendice, un ajout par un second rédacteur. Mais Marc va s'arrêter là-dessus. Le crucifié, c'est ça qui est donné pour voir Dieu, pour voir la nouveauté de Dieu révélée en Jésus, c'est-à-dire donc un Dieu que l'amour rend vulnérable. Cette nouveauté-là, c'est le crucifié qui nous la révèle. Donc, Dieu l'a ressuscité, mais il ne nous sera pas donné à voir dans l'évangile de Marc. Nous serons invités plutôt à retourner en Galilée et à relire cet évangile pour refaire un cheminement de lecteur chrétien, cette fois averti de ce vers quoi il va, pour essayer d'apprivoiser cette réalité qui est la christologie et la théologie très originale de l'évangile de Marc.
Vous venez d'entendre une émission spéciale de 2 heures portant sur la passion et la mort de Jésus telle que rapportée par l'Évangile de Marc. Je remercie Violaine Paradis qui nous a fait lecture des textes de Marc. Violaine est animatrice de pastorale au Centre Benoît-Lacroix et étudiante à l'Institut de pastorale des Dominicains. Je remercie aussi Marina Hushinskaya et Paul-André Giguère qui se sont impliqués dans la recherche musicale. Cette musique vient d'un compositeur estonien du nom de Arvo Pärt. C'est extrait de quelques CD. Je les nomme Lamentate, Stabat Mater et Fur Alina. Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains, commentait les textes de l'Évangile de Marc. C'est Claude Julien qui vous parle et qui vous souhaite des joyeuses Pâques.